Et tout de suite sur Radio Craponne, Histoire de France et d'ailleurs René-Joseph Irmana nous parle aujourd'hui de la mort d'Henri II, le dernier tournoi.
Bonjour, je vais vous parler donc de cet événement tragique, accident tragique et qui aura des conséquences incalculable, un désastre sur le royaume de France, la mort d'Henri II, le 30 juin 1559, lors d'un tournoi. Voilà. J'avais envie au préalable, tous les points de détail, c'était sur notre émission d'hier, de mardi dernier, sur les monarchies européennes. Alors, oui, je voulais vous dire, sur la reine du Danemark, Marguerite du Danemark, j'avais laissé en blanc le nom de son époux. C'était un Français, c'était Henri de Montpezat. Hein, voilà. J'évoquais leur vignoble dans le Bordelais. C'était donc une famille française. Et il a eu des problèmes de psychiatrie, quoi, en fin de vie. Voilà. Donc, et puis alors, j'avais parlé du prince Régnier. Hier, il y avait une émission d'ailleurs sur la 3, hein, l'émission habituelle Secret d'Histoire de Stéphane Berg là, sur le prince Albert Ier. Illustre, Albert Ier de Monaco. Et donc là, j'avais évoqué Régnier, le petit-fils d'Albert Ier. Et donc, ou plus exactement, Régnier était le fils de la princesse Charlotte, qui a passé son tour, et qui était la fille de Louis II de Monaco, le dit Louis II étant le fils d'Albert Ier. Donc Louis II qui avait été un collaborateur, la principauté sous son règne avait été tout à fait, avait accueilli à bras ouverts, si je puis dire, les Allemands, les SS y étaient chez eux, et Régnier, qui avait un peu plus de 24 ans, pas vraiment dans la résistance, il était entré dans l'armée, dans l'armée de la libération. Alors, je crois que c'était de l'armée de Delattre de Tassigny. Voilà. Il avait combattu et sauvé l'honneur, hein, et maintenu donc la principauté qui, je pense, aurait été menacée à la libération. Voilà. Donc, Henri II, le sujet du jour, le 30 juin 1559, sa mort tragique. Alors, je vais évoquer ce tournoi. Alors Henri II est le fils de François Ier, hein, et de Claude de France. Il est l'époux de Catherine de Médicis. Il succède à son père François Ier. Il ne devait pas régner initialement, puisque c'était son frère aîné. Mais son frère aîné, le dauphin en titre, est mort prématurément. Et donc c'est Henri qui règne. Lors du mariage de sa fille Élisabeth, de leur fille Élisabeth, avec Philippe II d'Espagne, fils de Charles Quint, et de sa sœur, la sœur de Henri, Henri II, qui épouse le duc de Savoie, sa sœur Marguerite. Il y a plusieurs Marguerites, mais bon, là c'est la sœur d'Henri II, épouse le duc de Savoie. En marge de ces cérémonies, il organise un tournoi. C'est déjà assez désuet, les tournois à l'époque. Ça vient du Moyen-Âge. Ça paraît un peu, encore, peut-être pas complètement anachronique, mais c'est vraiment la fin. Ils sont plus pratiqués. Et après la mort d'Henri II, puisqu'il va périr accidentellement lors de son tournoi, ça sera le dernier tournoi du roi, comme indiqué, puisqu'il va y mourir. Il laissait la vie, et ça sera aussi la fin des tournois. Hein, voilà. Donc, le jeudi 30 juin 1559, organisation de ce tournoi prestigieux, hein, puisque, alors, c'est aussi à l'occasion de ces deux mariages, mais aussi à l'occasion, alors, il y a eu le traité du Cateau-Cambrésis. On y reviendra, qui a été un traité désastreux, défaite face à l'Espagne, justement. On a dû abandonner plusieurs provinces, on a dû abandonner la Savoie, le Piémont, le Charolais, la Bresse, le Bugey, après la défaite de Saint-Quentin en 1557, donc, et signé donc ce traité du Cateau-Cambrésis, qui entérine un peu ce malheur, cette partition du royaume traité signé le 3 avril 1559. Et donc c'est aussi pour eh bien, transformer la défaite un peu en victoire, au-delà des, donc, du double mariage qui est célébré. Voilà. C'est pour faire oublier, c'était un peu de la publicité, si on peut dire, avant l'heure, pour le noyer un petit peu le... noyer le poisson, enfin. Et donc, Henri II a toujours, toutefois, cet esprit chevaleresque, cet esprit des chevaliers du Moyen-Âge. Ouais. Donc, le jeudi 30 juin 1559, ça sera un tournoi prestigieux. Les tournois étaient devenus, je ne sais pas si j'aurai le temps, ou lors de la prochaine émission, vaguement évoqué l'évolution des tournois qui sont devenus... à partir du XIIIe siècle, des fêtes, mais très bien organisées, voilà, avec toute une réglementation, un cadrage. Enfin. Et ils étaient issus, au départ, initialement, c'était des vrais mêlées, hein, où on se battait à l'épée, quasi au corps à corps. Ça avait évolué jusqu'à devenir vraiment entouré de tout un cérémonial, hein, mais on pouvait y mourir. Donc, c'est le roi lui-même, le dauphin, futur François II, d'ailleurs, qui était. Enfin, il a 15-16 ans, 15 ans à peu près, il va mourir à 16 ans, le futur François II, éphémère François II, et son fils, qui sont en lice, on dirait qu'ils sont en concours, le duc de Nemours, le duc de Lorraine, les Guises, voilà, et le prince de Ferrare, voilà. Donc, le roi lance un appel, en fait, à concours pour participer, il affrontera plusieurs adversaires. Voilà. Donc, on organise la lice, c'est-à-dire bon, c'est la clôture, la lice, hein, dès le 28 juin, ça va se dérouler du 28 juin au 2 juillet, donc une grande fête dans Paris, auprès de l'hôtel royal des Tournelles. L'hôtel royal des Tournelles, qui borde la rue Saint-Antoine. Aujourd'hui, c'est devenu la place des Vosges, parce qu'après la mort d'Henri, tragique, Catherine de Médicis, hein, qui l'adorait, bien qu'il ne la trompe pas de façon éhontée, on dirait, très humiliante avec la fameuse Diane de Poitiers, eh bien, elle avait fait supprimer cette place des Vosges, voilà. Elle avait fait supprimer, disons, changer les lieux, et puis la cour qui habitait à l'hôtel des Tournelles était partie au Louvre, elle ne voulait plus voir ces lieux qui lui rappelaient son malheur. Donc la rue Saint-Antoine est dépavée, c'est immense, ça fait, je sais pas, 20 mètres de large, 150 mètres de long, c'est une vraie place, cette rue Saint-Antoine. On y répand du sable, hein, voilà. Donc entre la rue Saint-Paul et l'entrée de la Bastille. Alors, c'est tout un montage festif avec des tentures, des estrades, des tribunes, arc de triomphe, voilà, avec les couleurs de l'Espagne, de la Savoie et de la France. Alors l'Espagne, on a été défait, on l'a dit, mais la fille Élisabeth, la fille d'Henri II et de Catherine, eh bien, épouse Philippe II. Le fils de Charles Quint, donc le roi d'Espagne, Philippe II, roi d'Espagne, et puis couleur de la Savoie, puisque le duc de Savoie épouse la propre sœur, Marguerite, d'Henri II, et bien sûr les couleurs de la France. Donc, et on célèbre, je l'ai dit, ces deux mariages princiers, Élisabeth qui épouse Philippe II. Alors, le mariage a été célébré par procuration, comme on le faisait à l'époque. Voilà. C'est le duc d'Albe qui a été envoyé par Philippe II, qui se trouve à l'époque à Bruxelles. C'était les Pays-Bas espagnols à l'époque, hein. La Belgique actuelle, les Pays-Bas actuels, c'était une province espagnole. Et donc il n'est pas venu personnellement, par orgueil probablement, parce qu'il considère que la fiancée doit venir à lui, non pas lui, à la fiancée. Donc il envoie un représentant, le duc d'Albe, et c'est ces mariages par procuration, y compris... qui ont perduré jusqu'à... D'ailleurs, Napoléon, on sait, avait épousé Marie-Louise par procuration. C'est-à-dire on met les deux fiancés dans un lit. Là, elle avait 14 ans, la petite Élisabeth. Et en présence du public, de la cour, le fiancé et la fiancée, ils ont une des jambes qui est dénudée. jambe gauche et droite, et ils font toucher leurs jambes, c'est tout. Et on considère que symboliquement, le mariage est consommé. Voilà. Par ailleurs, Marguerite, la sœur, épouse donc le duc de Savoie, le duc Philibert de Savoie. Alors, sur ses prénoms de Marguerite, qui est très répandu, enfin, dans la famille royale notamment, donc il y a Marguerite d'Alençon, d'Angoulême, puis d'Angoulême, et qui deviendra Marguerite de Navarre, qui épousera le roi de Navarre, hein, Antoine d'Albret. Donc Marguerite, la sœur de François Ier, l'érudite, enfin la Marguerite des Marguerites, comme l'appelait son François Ier. Et ensuite, donc Marguerite qu'on vient de citer, qui est la sœur d'Henri II, donc la fille aussi de François Ier avec Henri II. Il y avait aussi un frère aîné qui est mort, on l'a vu, et c'est Henri qui succède, et qui est devenu roi, à la place de son frère prématurément décédé, donc la sœur d'Henri, Marguerite. Et puis il y a la fille d'Henri II et de Catherine de Médicis, parmi la fratrie, la fameuse reine Marguerite, qui épousera le futur Henri IV. Hein, voilà. Et donc dans la fratrie, on le sait, Henri II et de Catherine, il y a Margot, on l'a dit, personnage romanesque, mais réel bien sûr, et flamboyant et débauché, quoi. Mais Margot, il y a donc Elisabeth qu'on marie au roi d'Espagne, à Philippe II, fils de Charles Quint. Il y a aussi les Claude qui épousera le duc de Lorraine. On célèbre aussi l'union qui a été célébrée de Claude avec les fiançailles d'entre Claude, l'autre fille, troisième fille de Catherine et d'Henri, avec le duc de Lorraine, voilà Claude. Et puis il y a les fils, une lignée assez lamentable, hélas, Henri III, François II, qui est là, qui est un adolescent de 15 ans, qui mourra à 16 ans, qui régnera peu. Je ne sais plus, alors un an peut-être, qui a épousé Marie Stuart, un adolescent très maladif, qui mourra prématurément, qui a épousé. Donc elle est déjà reine d'Écosse, la jeune Marie Stuart. Elle a le même âge, 14-15 ans. Voilà. Et il viendra roi à la mort de son père, Henri II, qui va survenir lors de l'événement, de cet événement tragique du 30 juin 1559. Le futur Henri III, l'autre fils, enfin Charles IX, le futur Charles IX, qui va régner après François II, hein. Il régnera 10 ans sous la régence de sa mère, et puis le troisième fils, Henri, qui deviendra Henri III, hein. Le roi entouré de ses mignons, qui sera assassiné et auquel succédera le cousin, le futur Henri IV. Voilà. Donc, il y a eu ce traité lamentable. 3 avril 1559, face à l'Espagne, consécutif à la défaite de Saint-Quentin de 1557, où on a perdu nos provinces, Savoie, Piémont, Charolais, Bresse, Bugey. Mais on célèbre, ça transforme l'échec en victoire, et puis il y a ces unions qui sont, elles, des succès quand même. C'est des succès diplomatiques, ces mariages. C'est toujours cette politique des mariages qui sera un peu le domaine privilégié de Catherine de Médicis, qui va devenir régente, mais sous Charles IX notamment, sous le deuxième fils. Elle aura toute son influence. À la mort d'Henri, ça va être François II. D'ailleurs, c'est l'épilogue, j'aurais dû en parler après. François, son fils de 15 ans, et avec Marie Stuart, eh bien, il va régner, mais Marie Stuart est aussi la nièce des Guises. Elle est la fille du roi d'Écosse, hein, Jacques IV, ou Jacques V, plus exactement, cousin d'Élisabeth II d'Angleterre. Et c'est une enfant, elle est venue en France. Après la défaite écossaise, elle s'est réfugiée en France, elle a épousé François II, et elle est la nièce des Guises par sa mère, Marie des Guises, qui avait épousé le roi d'Écosse, Jacques IV, hein, et donc, Jacques V, hein, plus exactement, et ce sera les Guises qui vont gouverner, hein, voilà, qui vont gouverner, et Catherine sera un petit peu sur la touche, mais elle prendra toute sa, elle va déployer toute sa puissance à la mort de son fils François II, lors de l'arrivée sur le trône de son deuxième fils Charles IX à 10 ans. Elle sera régente de France, et là elle va prendre totalement les rênes du pouvoir. Voilà. Donc on en est au notre tournoi qui va changer le cours de l'histoire. Et donc, il y a toujours ces rêves de chevalerie, mais ils sont désuets et anachroniques. Mais Henri II les cultive. Voilà. Donc, en ce mois de juin, fin juin, le dernier jour de juin 1559, la chaleur est accablante sur Paris. Et puis, il y a une poussière aveuglante. On a répandu du sable. Enfin, donc, la visibilité n'est pas très bonne. Henri II a 40 ans. Il fait figure de roi vieillissant. À l'époque, on devient vieux à 40 ans. Ouais. Voilà. Et donc il lance, comme je l'ai dit, on a, en termes d'époque, expression, c'est le début de la Renaissance, hein, la fin du Moyen-Âge, un cartel de défis à tout venant pour inciter les jeunes à la vertu, c'est-à-dire qu'il les appelle à le combattre. Voilà. Et donc, un combat singulier, si on peut dire, c'est une épreuve de sportive, mais... une espèce de provocation noble, enfin, et donc on verra que le combattant qui va, eh bien, provoquer sa mort, ça sera Montgomery, hein, un certain Montgomery, Gabriel de Lorge, comte de Montgomery, qui a 29 ans, voilà, et qui est très courageux. Il est responsable des gardes de la tête des 100 gardes de la garde écossaise, Marie Stuart, l'alliance avec l'Écosse. Il est le capitaine, donc le lieutenant des 100 archers de la garde écossaise. Voilà. Ça sera le dernier qui va combattre le roi, et ça sera le dernier qui lui sera fatal. Alors, sous le dé royal, on appelle ça l'échafaud, mais ça veut dire une tribune. Hein. Sous un dé, c'est très somptueux. Les dames sont avec leurs bijoux, leurs étoffes, leurs soies, leurs brocarts. Hein. Et puis les décorations sont superbes. Hein. S'installe donc sous le dé Catherine, sa belle-fille Marie Stuart, 15-16 ans, et puis qui est un peu arrogante. Hein. Ce qui fait qu'à la mort de François II, elle devra repartir en Écosse, parce qu'elle ne se fait pas que des amis. Elle est reine, déjà, d'Écosse, en titre, enfin, et en fait. Hein. Mais... elle devra quitter la France à la mort de son époux. Il y a une certaine mésentente avec Catherine, sa belle-mère. Voilà. Et puis il y a un autre personnage, la duchesse de Valentinois, c'est-à-dire qu'on a appelé Diane de Poitiers, qui est la maîtresse officielle d'Henri II. Diane de Poitiers, qui se trouve veuve, hein, du duc de Valentinois. Elle a 60 ans à l'époque, mais elle n'a pas encore perdu sa superbe. Elle est toujours maîtresse du souverain depuis, je sais pas, depuis 30 ans. Et donc elle est d'ailleurs la cousine de Catherine de Médicis, puisque Catherine de Médicis, elle est issue de la famille des Médicis de Florence, mais par sa mère, sa mère était française. Hein, voilà, Madeleine de la Tour d'Auvergne était française, et donc par sa mère. Il y a un cousinage avec Diane. Hein, voilà. Donc ce jour-là, c'est, répète, ambiance caniculaire. Et Catherine est inquiète. Il y a l'inquiétude qui règne. Elle est, on le sait, adepte des mages, comme tous les Médicis, des oracles, et notamment d'un certain Nostradamus, Michel de Notre-Dame, dont la prédiction est assez précise. Je vous la lirai. On pense qu'il y a du drame dans l'air, en quelque sorte. Elle est très angoissée, Catherine, et à juste titre, bien sûr, on le verra. Donc Henri II, bien que vieillissant, un homme de l'époque à 40 ans déjà, commence à vieillir. Il porte beau, ouais. Il est élégant, sportif, et il arbore les couleurs, puisque c'est souvent le cas dans ces tournois. Eh bien, les combattants arborent les couleurs, notamment de leur dame, et il arbore là, Henri, les couleurs noir et blanc, qui sont les couleurs de Diane. Hein. Voilà, sans complexe. Enfin, il se bat pour Diane. Enfin, voilà. Il la représente en quelque sorte. Et elle est très hiératique, très hautaine, très fière, méprisante. Mais ça se terminait pour elle, non pas tragiquement, parce qu'on verra, elle va bien s'en sortir. Mais ça sera. La mort du roi sera la fin du règne occulte, de Diane. Hein, voilà. Le tournoi est bien organisé, c'est les trompettes, c'est la pompe, la foule aussi qui assiste, bien sûr, la foule parisienne, curieuse, mais c'est pas très populaire, parce que le peuple sait qu'il y a eu la défaite, et donc on se gosse un peu d'Henri. Henri II, je l'ai dit, puisque c'est des rêves un peu dépassés, ces rêves de combat, ces rêves chevaleresques. Depuis le XIIIe siècle, XIVe, eh bien, ça paraît un petit peu, encore une fois, déjà à l'époque anachronique. Donc, il y aura trois combattants qui vont succéder, puisqu'ils vont se présenter, concourir, suite à l'appel du roi, hein, appel à l'affronter. Donc le roi met son armée en tête, ARMET en tête, enfin, donc l'harnachement est assez lourd, hein, à l'époque, voilà. Donc il y a le casque, il y a le homme, le haubert, enfin ça évoque le Moyen-Âge. Le homme c'est le haubert, c'est la chemise, je l'ai noté. Le homme c'est le casque qui est surmonté d'un cimier. Enfin voilà, parfois de plumes, il y a des plumes. Donc, le premier combattant à affronter, c'est le duc de Savoie. C'est le propre beau-frère, enfin le futur beau-frère, donc qui va épouser Philibert, Marguerite, la sœur du roi. Alors là, Henri remporte la victoire. La règle, c'est que dès que le combattant, c'est des joutes. Je l'évoquerai peut-être une prochaine fois. C'est plus l'épée, c'est des joutes, ce sont de longues, ça fait 2-3 mètres. Et il s'agit avec ces joutes, c'est des combats à distance. Il y a deux couloirs, une lisse qui est au centre, en toile, et les deux combattants se font face, se croisent au grand galop. Et l'objectif, c'est un petit peu comme dans les joutes navales, je pense. Oui, c'est ça. Donc il faut faire chuter l'adversaire. Et on vise l'écu, c'est-à-dire, je pense, qui porte au point, et à gauche, quoi. Et on essaie de le faire chuter. Dès qu'il chute, le combat est fini, c'est la victoire. C'est celui qui a provoqué la chute de l'autre. Ça ne va pas plus loin. Premier combattant, le duc de Savoie. Alors, victoire d'Henri II. Savoie, je pense, il est juste déstabilisé. Hein, voilà. On considère que c'est la victoire. Deuxième combattant, c'est le duc de Guise. Les Guises vont faire parler d'eux. Ils vont prendre le pouvoir à la mort d'Henri. En fait, ça sera eux qui vont diriger jusqu'à l'arrivée, pendant le règne éphémère de l'adolescent François II. Et c'est un géant, le duc de Guise. Hein. Bon, mais là, le combat est nul. Enfin, c'est un match nul, hein, je veux dire. Voilà. Et le troisième combattant, parce que Henri veut partir sur une victoire, il sait que ça sera son dernier combat. Il est vieillissant, on l'a dit. Il veut partir en gloire sur une victoire. Et il appelle à combattre, justement, Montgomery, le capitaine des 100 gardes écossais. Donc, duc de Lorge, enfin comte de Lorge, Gabriel de Lorge, comte de Montgomery. Il veut pas Montgomery, et il est réticent. Il a 29 ans, alors là c'est un superbe combattant. Il est très généreux, il est admiré, voilà. Donc il est réticent. Et puis, on presse le roi de toutes parts, et notamment Catherine lui envoie un messager pour l'inciter à renoncer. Voilà. Et Gabriel de Montgomery lui-même incite, Il fait tout, il fait une des quatre fers, si on peut dire, pour ne pas y aller. Mais le roi lui dit, Henri, c'est un ordre. Et donc, il va obéir. Hein. Voilà. Et donc, il y a un premier assaut. Le roi est déstabilisé par la lance. Hein. Voilà. Il branle sur sa selle, sur l'expression de l'époque. Voilà. Et il a quasi quitté les étriers. Donc, il est en mauvaise posture. Normalement, c'est fini. Donc, je pense qu'il serait vaincu au mieux match nul, mais lorsqu'il y a des doutes, il y a toujours il y a des arbitres, il y a un juge qui décide, un petit peu comme je pense à la boxe, enfin, si c'est au point ou au chaos. Donc il est pas vainqueur, quoi qu'il en soit, et il est en position de faiblesse. Et donc il exige, ce qui ne se fait jamais, une seconde lance, c'est-à-dire un second affrontement contre tous, y compris contre l'arbitre, qui est le maréchal de ville, le vieil, qui est l'arbitre, juge des armes. On lui répète que ça n'est pas l'usage. Et Villevieil évoque aussi ses propres pressentiments. Et Gabriel de Montgomery aussi demande au roi d'éviter, d'épargner. Voilà. Donc, mais contre tous, il décide, Henri, de remettre la lisse, de remettre la joute, je veux dire. Une troisième joute, enfin, ou une deuxième, voilà. Et donc, face à son jeune adversaire, mais qui est très vigoureux, très brillant, très courageux. Donc, et puis alors, il a une attitude quand même sauvage, le roi. Il doit être en colère, il doit être. Voilà. Il remet. Donc, c'est Villevieil qui remet au roi son casque, à contre-coeur. Or, habituellement, c'est l'écuyer qui est chargé de cette fonction. Monsieur de Boissy. Et donc Villevieil, peut-être tremblotant, je sais pas, enfin, il est juge d'armes, c'est pas un vieillard, mais apparemment, il remet le casque, c'est pas sa fonction, et il le ferme mal. Hein. Mauvaise fermeture, mauvais arrimage. Et Henri s'élance, d'ailleurs sauvagement, je l'ai dit, sans attendre, parce qu'il y a. On lance, comme aujourd'hui, dans notre période moderne, disons, c'est un peu un coup de pistolet ou voilà, qui déclenche la course. Là, c'est les trompettes. Là, il n'attend pas. Il fonce tout de suite. Son casque à moitié fermé. Et contre Montgomery, qui réagit lui aussi dans l'urgence, un peu pas pris au dépourvu, mais surpris. On attend le signal. Et le roi devance ce signal. Montgomery a sa lance cassée, parce que les lances parfois se cassent, hein, bien qu'elles soient solides et souples à la fois, souvent sous la brutalité du choc, elles sont cassées, parce qu'on cherche, chaque adversaire cherche à l'envoyer dans l'écu adverse, mais voire dans le homme adverse, hein, pour faire chuter l'adversaire. Voilà. Et donc, Gabriel pique des deux, c'est-à-dire il lance son cheval au galop, et puis c'est l'accident. Voilà. La joute qui est un peu cassée, il a un morceau de joute en main, il n'a pas eu le temps de se préparer, elle traverse la visière du roi, la visière du homme qui est mal fermée, et en fait ça passe sous l'arcade sourcilière. Enfin, le choc est terrible, la blessure, on va le voir, est horrible. Le roi part couché sur l'encolade de son cheval. Il est prêt de tomber. Il est récupéré au bout de la lisse par ses écuyers. Voilà. On lui ôte son casque. Un flot de sang surgit. Et Gabriel, on imagine son inquiétude, de Montgomery, aide à le porter. On le porte dans la chambre. Dans sa chambre, au Tournelle, qui est à l'époque la résidence de la cour. Alors. Là, c'est bien sûr, les blessures sont très graves. Hein. Il y a plusieurs impacts, au moins 5 éclats qui sont restés à l'intérieur du crâne. La lance s'est enfoncée sous le sourcil droit, hein, sous la paupière, enfin, et est ressortie par, de l'orbite, a traversé le crâne et sortie vers l'oreille. Voilà. On s'imagine que. Eh bien, dans le contexte de l'époque, c'est mortel. On appelle Ambroise Paré, le fameux chirurgien, qui fait des miracles, mais là, qui était le précurseur de l'autopsie, etc. Mais, eh bien, l'opération est impossible. Il avait fait, Ambroise Paré, une opération analogue sur François de Guise, le père des Guise, mais avec succès. Il avait sorti des débris de lance, hein, du crâne ou du cœur. Il ne peut pas rééditer l'opération, alors on sait que le bon Ambroise Paré, il demande que c'est horrible. Même avec la distance, on ne devrait pas en rire. Il fait sortir des prisonniers du Châtelet et il les fait exécuter. Enfin, il demande à Catherine de Médicis de faire l'autorisation de faire sortir des prisonniers pour les exécuter et afin de disposer de cadavres frais pour pouvoir s'exercer avant d'agir sur le roi, de tester. Et il y a trois prisonniers qui sont sortis, exécutés, voilà, et le bon Ambroise travaille sur ces cadavres, il fait des tests, il simule la percée de la lance, voilà, il refait exactement le tracé, si on peut dire, pour essayer d'opérer. Et il se rend compte que c'est pas opérable. Après le dernier, voilà, après les trois cobayes, impossible. On appelle aussi alors un autre anatomiste brillant de l'époque, Vesale, V-E-S-A-L-E, qui vient de Bruxelles, mais on ne peut pas. C'est l'agonie. L'agonie va durer 10 jours. Henri est serein. Donc apparemment il rassure Montgomery, parce qu'il se trouve en position de régicide, Gabriel, même si c'est involontaire, à l'époque, et même si c'était à son corps défendant, bon, peu importe, eh bien le roi le rassure, lui dit qu'il n'a pas à avoir d'inquiétude, qu'il a obéi à ses ordres. Néanmoins, d'ailleurs le conseil royal, dès la mort d'Henri, puisqu'il va avoir une agonie de 10 jours, terrible, mais enfin, qui va supporter avec dignité. Alors, au passage, malgré ses paroles rassurantes, si on peut dire, Gabriel Delorge, Montgomery va quitter au grand galop la ville de Paris et se réfugier sur ses terres normandes, à Ducé, près du Mont-Saint-Michel, parce que il n'a pas confiance. Et puis le roi, une fois mort, la reine Catherine est susceptible, à juste titre, vu la psychologie des personnages, non pas au nom de l'équité et de la justice, mais de vouloir se venger. Alors le roi, avant de mourir, il fait une mort digne quand même, malgré les souffrances. Il supporte ça avec en chevalier. Donc il donne l'ordre de finaliser le mariage de sa sœur Marguerite avec Philibert de Savoie, puisqu'ils n'étaient pas mariés. À la différence d'Elisabeth, la fille qui a été mariée par procuration. Donc c'est un cortège nuptial qui se déroule dans une ambiance, pour l'expression shakespearienne, peut-être j'en abuse, mais on célèbre le mariage la nuit, silencieusement. C'est un vrai cortège funèbre à l'église Saint-Paul, après minuit, à la lueur des torches et des flambeaux. C'est donc un mariage, on va dire, je répète, qui n'a rien de joyeux, un mariage funèbre. Le 1er juillet 1659, à Nevers, eh bien, dernière parole du roi. Alors il a une étrange attitude. Il fait envoyer une lettre au pape, il dicte une lettre pour le pape, où il l'informe qu'il fait tout, et que s'il survit, il fera tout pour réduire les hérétiques. Voilà, c'est le développement, bien sûr, du protestantisme, de la réforme. Mais déjà, François Ier, le père d'Henri II, avait allumé des bûchers contre les protestants. Bon, il est vrai qu'ils avaient abusé, alors que sa sœur, la sœur de François Ier, Marguerite, qui va devenir reine de Navarre, était une érudite et très proche des protestants. Il y avait un groupe de mots dont elle faisait partie. Mais eux, C'est toujours les excités, les provocateurs, les radicaux, hélas, qui prennent la tête des mouvements et qui empêchent, disons-le, toute entente entre gens raisonnables. C'est toujours les fous. Alors, ils avaient apposé des placards, c'est-à-dire des affiches, dans Paris et dans les villes de France, pour attaquer le pape, pour attaquer l'Église, pour condamner le catholicisme, jusque sur les portes de la chambre du roi. Alors, je parle de François Ier. Et donc, François Ier ne pouvait plus accepter. C'était une insulte, c'était un crime de lèse-majesté. Et sous François, les premiers bûchers, bien que ce soit un roi humaniste, il passe pour, comme tel, le roi de la Renaissance, les premiers bûchers sont allumés. Et sous Henri II, il y a eu des bûchers, voilà, pour bien combattre l'hérésie, martyriser les protestants. Donc, Montgomery, on l'a dit, il a pris la fuite, à juste titre, il a pris la fuite. Il s'est senti menacé, bien qu'innocent au regard de l'équité, mais il passe pour un régicide. Il fait figure. Le conseil royal, dès après la mort du roi, le casse de son grade de lieutenant des archers, des cent-archers, de la garde écossaise. Il est banni, et donc c'est l'exil. Et ça aurait été pire s'il avait été sur place, hein, probablement. Il part un temps en Italie, puis en Angleterre. À noter que pendant sa période anglaise, c'est Élisabeth II, Élisabeth Ière, qui règne en Angleterre et elle mourra à l'époque d'Henri IV. Hein, vous voyez, après. Donc, Élisabeth Ière, Catherine demande l'extradition de Montgomery. Et Élisabeth a une réponse, je vous la citerai si j'ai le temps. Elle dit simplement, chez vous, s'adressant à Catherine, il suffit d'être protestant pour être envoyé, pour être exécuté. Et donc, Montgomery étant protestant, ma conscience m'interdit de vous le livrer. Voilà. Donc c'est une fin de non-recevoir. Toutefois, il va mal finir, Montgomery. Après quelques années, il sera de retour en France. Il va devenir un des grands chefs auprès de l'amiral de Coligny, auprès du futur Henri IV, Henri de Navarre. Il va devenir un des grands chefs, un grand général protestant. Il va se convertir au protestantisme et donc devenir, remporter des victoires. Mais il sera pris en 1564. Il sera arrêté et il finira décapité en place de Grève en 1574, non pas pour être la cause de la mort d'Henri II, mais en tant que rebelle, en tant que protestant rebelle. Il est décapité encore une fois en place de Grève en 1574, sous les yeux d'ailleurs de Catherine de Médicis, notamment, qui peut-être elle n'était pas pourtant une personnalité cultivant la vengeance. Elle savait pardonner, pardonner est un grand mot, mais c'était une négociatrice. Voilà. Mais elle assiste derrière une fenêtre, on va dire, elle assiste à la mort terrible, eh bien, de Montgomery. Et à noter toutefois qu'il avait assumé, après avoir eu du regret, puisqu'il avait tué le roi, mais j'allais dire contre sa propre volonté, c'était le combat. Et après, il avait assumé son acte lorsqu'il est devenu un des chefs des protestants. D'ailleurs, la mère d'Henri, du futur Henri IV, Jeanne de Navarre, fille de Marguerite et d'Antoine d'Albret, Jeanne de Navarre qui épouse Antoine de Bourbon, ce sera les Bourbons, mère d'Henri IV, l'avait pris comme général. Il était son représentant, Jeanne de Navarre, qui était bien sûr le symbole du protestantisme, hein, en Navarre. Voilà. Et il avait mis sur son blason un homme percé d'une lance, voilà, en souvenir de l'événement. Il l'avait complètement assumé après en avoir été un petit peu tourmenté. Voilà, il en faisait un titre de gloire. Voilà. Et donc, quant à Diane de Poitiers, la maîtresse, alors on le verra, bien, Catherine pourrait se venger terriblement, parce que Diane l'a humiliée avec Henri II. C'était la maîtresse officielle plus que reine. Non, simplement, elle sera. Elle devra rendre. Il y aura une négociation. Elle est la cousine, si on l'a dit, hein, par maternelle, de Catherine. Elle devra. Il y aura un échange de châteaux. Elle avait le château de Chenonceau. Elle devra être échangée avec un autre château. Hein. Je vais vous donner le nom, mais bon. Et puis elle rendra les bijoux de la couronne. Mais elle aura une fin de vie tout à fait hors la cour, certes. Mais. Très plus que riche, enfin plus que confortable, elle aura une fin de vie tout à fait digne, et, enfin, elle ne sera pas inquiétée. Voilà. Et ce sera donc le jeune François II, avec sa jeune épouse Marie Stuart, qui va monter sur le trône, mais sous la tutelle très prégnante des Guises, et il mourra 2 ans plus tard. Voilà. Marie Stuart rejoindra son royaume d'Écosse, où elle aura une fin tragique. Elle finira exécutée sur ordre d'Elisabeth, sa cousine, Elisabeth Ière, hein, dont elle est la cousine, voilà, issue de Germain, je dirais. Et François II mourra, ça sera Charles IX, le jeune Charles IX, âgé de 10 ans, son frère, cadet, sous le règne total, le règne de sa mère, qui sera la régente. Voilà. Et il y aura, sous Charles IX, ça sera le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, lorsqu'il aura 24 ans. Donc ça sera l'ouverture des tragédies, la guerre civile qui va s'ouvrir après la mort d'Henri II. Donc on va vous faire, je vais trop tarder probablement, mais bon, on va vous passer le premier intermède. Alors c'est un feuilleton de l'ORTF, un extrait. Alors ça se passe après, à notre époque, mais ça évoque, là c'est un duel. C'est pas un tournoi organisé, c'est un duel spontané, si je puis dire. Extrait de La Dame de Montsoreau, qui passait sur l'ORTF en 71. Alors c'est entre Bussy d'Amboise et les Mignons du Roi. Hein. Donc là, ça se passe sous Henri III, hein, sous le troisième fils de Catherine de Médicis. Mais Catherine est toujours vivante d'ailleurs à l'époque. Voilà, elle apparaît dans le film avec. C'est un film de Claude Brulé, créé par Claude Brulé, réalisation Yannick Andréhi, avec Nicolas Seiberg dans le rôle titre, duc de Bussy, et puis Denis Manuel dans le rôle d'Henri II, dans le rôle d'Henri III, Karine Petersen dans le rôle de la Dame de Montsoreau. Enfin, c'est une histoire d'amour sur fond des guerres de religion, hein, qui. En deuil et ensanglante la France. On se retrouve dans 3 minutes.
Quel plaisir de vous voir aux Tournelles, monsieur. D'autant plus vif qu'il est plus rare. Tu es un grand mal appris, seigneur Bussy d'Amboise, de nous parler ainsi à cheval quand nous t'écoutons à pied. Je te tuerai donc à pied, mon cher, puisqu'on se tutoie.
À mort, le sanglier.
Le sanglier mourra, peut-être. Mais il en découdra quelques-uns avant. Foi de Bussy.
Un extrait de La Dame de Montsoreau, donc ce feuilleton. On retrouve René-Joseph Irmana qui nous parle aujourd'hui de la mort d'Henri II.
Oui, donc je vais évoquer un petit peu l'épilogue. Et j'avais prévu de vous donner quelques indications sur les tournois, l'époque, leur organisation, etc. Quelques termes de vocabulaire, simplement. Alors le homme, j'ai cité, c'est le casque. Hein. Donc l'écu, je pense que c'est le bouclier, voilà, qui est visé par l'adversaire, voire le homme, par ses joutes qui sont très longues, 2-3 mètres, très lourdes à porter. Et quand les combattants sont dans deux couloirs séparés, comme c'était le cas, par une barrière en toile, ils sont pas face à face, vraiment, ils sont éloignés, et donc ils tiennent leur lance en oblique, et donc il faut être à la fois très fort et très adroit pour bien viser. Le haubert, c'est la chemise hein, du combattant. À noter, bon, la lisse, c'est la palissade. Le cibier, c'est la décoration, notamment parfois avec des plumes, qui surmonte le casque. Et puis il y avait aussi la notion d'emprise, comme une emprise au sol. Alors là, je n'ai pas à confirmer, mais je pense que c'était une sorte de brassard que le chevalier portait sous le bras, sur le bras ou à la jambe, justement pour se faire connaître qu'il était, qu'il cherchait des adversaires pour combattre. Hein, voilà. Parce que ça rapportait de l'argent aussi. Et quand, dans ces combats, ces joutes, notamment, eh bien, par exemple, le cheval, dans ces joutes organisées, il y avait des prix, par exemple un agneau en or, mais dans ces joutes ou ces duels organisés, eh bien, par exemple, le cheval du perdant appartenait au vainqueur. Il prenait le cheval le vainqueur était parfois devait payer une rançon. Le vaincu devait payer une rançon. Il était considéré comme prisonnier. Voilà. À noter aussi la quintaine. Ce qu'on appelait la quintaine, c'était un mannequin pour exercer, pour servir d'exercice aux jeunes qui se formaient à ces tournois, à ses joutes. Alors ce mannequin, quand on le ratait, il faisait un demi-tour sur lui-même et il donnait un coup dans le dos de celui qui avait mal visé, vous voyez. C'était un agencement assez moderne, mais donc il retournait, il donnait un coup de masse, je crois, sur celui qui avait pas visé correctement l'écu, hein, voilà. Il y a aussi les chevaliers de la table ronde, hein, vous voyez, ces romans de chevalerie d'autrefois, Perceval, etc. Donc on parlait de table aussi, parce que initialement les tournois c'était la mêlée. Alors on se battait une fois qu'on était à bas du cheval, à l'épée, vous voyez. Et les tournois ensuite, on parlait de table, une table ronde vient de là, c'est organisé avec beaucoup des règlements très précis. Et on parlait aussi de chartes, ça y avait des chartes avec des règlements qui n'ont cessé de se peaufiner et de se complexifier. Il y avait déjà quand même des règles qui s'imposaient, qui relevaient de l'idéal de chevalerie. On ne pouvait pas, une fois que l'un des deux était à terre, qu'il avait notamment le genou en terre ou qu'il touchait le sol, alors on parle dans les duels là, individuels, il avait perdu, hein, voilà, c'était le perdant. Il y avait des espèces de règles d'honneur qu'on devait respecter, les règles d'honneur, et qui étaient bien dans l'esprit donc de la chevalerie. J'y reviendrai peut-être si j'ai le temps. Là, je vais évoquer l'épilogue à partir d'un grand historien, Jean Aurieux, sur l'épilogue après la mort du roi, hein, après la mort, l'agonie et la mort après 10 jours, donc d'Henri II. En ce mois tragique de juin 1559. Hein. Donc, à propos notamment de l'attitude de Catherine de Médicis, voilà, Diane donc a compris que son règne occulte était fini. Donc, ça n'était plus, écrit Jean Aurieux, l'altière et insolente rivale, c'était une humble sujette demandant pardon de ses offenses passées. Elle connaissait à merveille la dure loi du pouvoir. Elle l'avait appliquée sans pitié aux autres et à Catherine d'abord, l'humiliant sans vergogne. Cette loi la voici. Le puissant se doit d'écraser le plus faible. Le moment était venu de s'y soumettre à son tour. Elle s'y soumit. Elle pouvait s'attendre à tout perdre et même la vie. À la place de Catherine, elle se serait vengée à mort. Elle prit soin de joindre à sa lettre de soumission et l'écrit, pour demander pardon, la cassette contenant les bijoux de la couronne qu'elle détenait indûment. cela donnerait du poids à sa contrition. Catherine n'appartenait pas à la même espèce. On l'a vu, c'est une tête politique, c'est une vieille élève de c'est une disciple de Machiavel. Elle a été formée à la diplomatie pontificale au Vatican par son oncle. Alors je crois que Clément VII ou voilà. Donc enfant, elle était orpheline. Elle n'appartient pas à la même espèce. Elle laissa à Diane la vie et les biens, sauf un Chenonceau, parce que il était du domaine royal et inaliénable. Elle reprit Chenonceau, mais en échange, elle eut un geste. Elle lui offrit Chaumont, avec ce commentaire à propos de Diane: elle faisait les délices de mon cher mari, dit-elle. J'ai honte de reprendre Chenonceau, je lui donne Chaumont. Donc il n'y a pas de vengeance aveugle, bien au contraire, il y a une petite gêne presque, voilà. Mais c'est de la perfidie malgré tout, c'est toujours de la rouerie. Perfidie royale, le caractère de Catherine s'y révèle, contrairement à l'histoire romantique et romancée qui a créé son personnage mélodramatique. Elle n'a qu'à très rarement voulu se venger et anéantir ses ennemis. Quand ils étaient forts, elle s'inclinait, les amadouait. Quand elle les avait abattus, elle essayait de se les concilier en ménageant l'avenir. Avec Diane, totalement neutralisée par la disparition du roi, elle joua la clémence d'Auguste. La haine ne fait pas partie de son arsenal. Elle est trop intelligente et calculatrice pour ignorer que la haine est mauvaise conseillère dans l'art d'exercer le pouvoir politique. Le moyen donc le plus improbable, le plus incertain, le plus fluctuant qui soit. L'ennemi d'aujourd'hui sera peut-être, eh bien, l'allié de demain. La fille des banquiers n'aimait pas jouer perdante, or la haine est un mauvais numéro. Elle jugea que sa générosité convenait à la dignité royale et qu'elle assumait enfin pleinement. Elle fut donc généreuse, entre guillemets, sans cesser d'être menaçante. Entre les mains d'une fille de Machiavel, la clémence aussi était une arme. Donc quand on... Donc Diane, anéantie, garde sa fortune, ses seigneuries innombrables, ses châteaux, ses titres. Elle vit dans l'obscurité, mais une obscurité splendide, brillante. Elle meurt en 1566. Elle avait enfin vieilli. Voilà. Vers 70 ans, je pense qu'elle meurt. Voilà. Elle avait 60 ans à la mort du roi. Voilà. Et restait toujours superbe et toujours la maîtresse. Montgomery, donc, j'ai évoqué, il n'avait aucune confiance dans l'entourage de Catherine, ni dans les juges. Il s'enfuit en Angleterre. Il en reviendra chef protestant. On sait qu'Élisabeth première refuse de l'extrader vers la France. Elle sait qu'il sera condamné. Elle est protestante. Elle soutient les protestants. Elle soutiendra la cause, bien sûr, des Huguenots et du futur Henri IV. Elle sera l'amie d'Henri IV. Il en reviendra chef protestant à la tête d'une troupe pour lutter contre le roi et l'église. Mais alors là, il est cruel, hein, Montgomery aussi. C'est pas un enfant de cœur. C'est un sanguinaire. Il ravage la Normandie. Alors, il est pris et décapité en place de grève en 1574. Non comme régicide, mais comme rebelle. Donc, Catherine prit un deuil éternel. Sous son funèbre aspect, les peintres la croqueront. Elle sera représentée comme la reine noire. Voilà. Donc, elle ne supportera plus la vue des lieux où s'est déroulé ce tournoi tragique. Et donc, elle n'habitera plus les tournelles. Elle fera raser le château. Si elle avait pu, elle aurait fait raser la rue Saint-Antoine et tout le quartier. Mais elle alla habiter le Louvre. La cour s'installe au Louvre dans le souvenir de l'amour inextinguible de son mari. Elle choisit un deuil, un symbole, comme on le faisait à l'époque. Toute sa ville, donc elle sera dans les vêtements noirs, dans les voiles du deuil noir. Ce sera son symbole, une lance brisée, une devise. Lacrimae inc, inc dolor. De là viennent mes larmes et ma douleur. Voilà. Et donc, là c'est un sentiment tout à fait sincère. Elle va reporter ses sentiments sur ses propres enfants qu'elle adorait, les porteurs du sang royal, du sang de son époux. Ils étaient sacrés, ses enfants. Elle aura pour eux une passion sourde, dévorante, impitoyable, mais aveugle, et cette couronne qu'elle tenait de son mari, à laquelle les astres l'avaient prédestinée, elle allait la sauver de tous les périls. C'est là le secret quelque peu magique de sa politique. Jusqu'à son dernier jour, elle ne fut que l'incarnation de cette passion, et dans une cour où les femmes du plus haut rang afficher leurs amants successifs, où la luxure était publique, où les bals de la cour s'élevaient souvent, s'achevaient dans des coucheries pour le plaisir des acteurs et des spectateurs. Catherine, veuve hiératique, dans ses voiles noires, cuirassée de douleur et d'ambition, est restée irréprochable, farouchement déterminée à jouer son rôle de reine et de mère de la royauté. Donc elle aura ses trois fils qui régneront successivement le souverain de Charles IX, on le sait, enfant, mais elle restera, elle sera régente en titre, mais elle continuera de gouverner à travers son fils, puisqu'il sera assez détraqué, le jeune Charles IX, et il signera le massacre, enfin ce qui deviendra le massacre de Saint-Barthélemy en 1572, et il en mourra de remords à 24 ans. Et le dernier fils, Henri III, qui a été malmené par les historiens, comme mignon, comme efféminé, qui est en réalité un grand chef de guerre et un authentique souverain, Henri III, eh bien, mourra assassiné sous les murs de Paris, et il laissera il passera, si vous voulez, le relais, témoignera par testament, verbalement, il désignera Henri, son cousin, auprès duquel il luttait pour reprendre Paris contre les ultra-catholiques, les ligueurs. Il passera la couronne au Bourbon, à Henri IV, à son cousin Henri IV. Donc on va passer le deuxième intermède. Donc c'est la musique de la Reine Margot, du film La Reine Margot, avec Isabelle Adjani, de Patrice Chéreau, voilà, de 1994. Je crois qu'on va se quitter là, puisque mon temps est fini. Eh bien, à bientôt, chers amis auditeurs, chers auditeurs et amis.